Bonsoir à chacun, bienvenue à nouveau à cette session Biblos. Donc, on a la joie d'accueillir Frédéric qui a déjà été orateur à Biblos l'an passé et qui est à nouveau orateur cette année. Donc, je vais juste prier et après je lui laisse la parole. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions, tu vois, de nous donner encore l'opportunité d'ouvrir ta parole ce soir pour ouvrir ces chapitres, pour apprendre à pouvoir vivre ensemble entre frères et sœurs, à pouvoir s'accepter et s'aimer et se tolérer. Nous demandons de permettre que nous sachions nous laisser guider par ta parole. Nous demandons d'accompagner Frédéric qui va l'exposer. Nous demandons de lui donner ton esprit et de permettre que là encore, tu puisses lui donner de pouvoir être compréhensible. Nous te remettons chacun et chacune. Nous demandons de permettre qu'il y ait la liberté pour pouvoir poser des questions si des choses ne sont pas claires pour eux. Nous te rendons gloire pour tout ce que tu as accompli pour nous et te remercions encore pour ces temps. Dans ton nom précieux. Amen.
Voilà, bonsoir à tous. C'est juste avant de partager mon écran. Donc, mon nom est Frédéric Jean. Je suis basé à Düsseldorf, en Allemagne, mais où j'habite depuis 25 ans. Mais je suis français. Et donc, j'ai un grand privilège d'être avec vous ce soir et de continuer une lecture que nous avions effectivement partagée ensemble au mois de janvier dernier, concernant le chapitre 8 des Romains. Et ayant un peu plus avancé maintenant, on se retrouve à partir du chapitre 13, verset 8. Liberté chrétienne et considération de l'autre, c'est le titre général que j'ai proposé sur le passage que nous allons lire. Alors, le chapitre 13, verset 8 jusqu'à 15, verset 13. Nous couvrirons cela sur deux séances, et ce soir, ce sera jusqu'au chapitre 14, verset 13. Pour ceux qui étaient avec moi en janvier, vous vous souvenez de ce plan de Monsieur McGee que vous retrouverez en écoutant son américain du Tennessee sur throughthebible.org, mais il y a environ 200 langues audio disponibles, donc chacun retrouvera la sienne. Et vous vous souvenez qu'au l'épître aux Romains, nous l'avions coupé en trois parties, Romains 1 à 8, ensuite 9 à 11 et 12 à 16, et on pouvait faire les trois S, salut, ségrégation, service. On pouvait aussi dire c'était la foi, l'espérance et l'amour, et on disait aussi c'était la doctrine, la dispensation et le devoir, avec bien sûr les trois fois le D, trois fois S. C'est les Américains qui aiment bien cette façon de classer les choses. Et nous sommes donc dans la partie service, dans la partie amour, dans la partie devoir, donc dans la partie vie chrétienne de cette épître. Et nous commençons par un petit paragraphe sur l'amour, justement, qui sera suivi par un petit paragraphe sur la lumière. Et cela nous permettra de terminer le chapitre 13. Et puis il y a ce grand chapitre 14 que nous allons couper en trois parties. La liberté, être convaincu. La liberté, avoir bonne conscience. Oui, la liberté chrétienne, mais considérer les autres. Et nous terminerons avec Jésus pour les Juifs et les nations. On aurait pu croire que ce petit morceau-là, 8 à 13 du chapitre 15, est finalement un peu hors sujet ou n'a pas bien de rapport avec le reste, sauf qu'on verra que quand on va entrer dans le chapitre 14, pas mal d'exemples sont justement tirés de cette vie commune entre les Juifs et les nations, et c'est pour cela que ça convient très bien de terminer notre lecture avec ce paragraphe sur Jésus pour les Juifs et les nations, que nous traiterons donc dans 2 semaines. Donc aujourd'hui, nous irons jusque vers la moitié. Vers la fin de chapitre 3, puisqu'on arrivera à peu près verset 13 du chapitre 14. Alors, selon la méthode que j'aime bien, on prend le texte et on le regarde. On commence toujours par le lire et ensuite on essaye de faire des liens entre les mots, entre les versets, pour s'y retrouver. Premier paragraphe, l'amour. Romains 13, verset 8, ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, ce qui est dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et quelque autre commandement que ce soit, est résumé dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour donc est le tout de la loi. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer. L'amour est une dette. On le doit aux autres et on ne peut jamais assez aimer. Et c'est vrai vis-à-vis du prochain et c'est vrai aussi dans le couple. On le doit à l'autre et on ne peut jamais assez aimer. C'est une dette. Ne devez rien à personne nous rapproche aussi du paragraphe précédent. Puisqu'au paragraphe précédent, concernant la soumission aux autorités, en particulier les impôts ou les taxes, cela fait suite à rendre à tous ce qui leur est dû, le tribut, le péage, la crainte, l'honneur. Donc ne devez rien à personne, c'est avant tout la suite de ce qui vient d'être dit. Donc vis-à-vis, on va dire, des autorités. Mais ça, sûrement, une application également plus large. Donc, nous devrions bien sûr nous libérer de nos devoirs manifestes, pas seulement envers les autorités. Et si on ne doit rien à personne, si on s'est libéré de nos devoirs manifestes, eh bien, s'ouvre une porte pour la mise en pratique de l'amour, parce que ça, c'est un devoir dont on ne se libère jamais complètement. Ne devez rien à personne fait aussi bien sûr penser à la question des dettes. Le chrétien a-t-il des dettes? Alors, on peut penser que le chrétien évite les dettes pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a un risque de faillite et donc de ne pas pouvoir tenir ses engagements, de ne pas pouvoir tenir parole. Et ça, c'est une application sûrement de notre texte, ne devez rien à personne. Une autre pensée par rapport aux dettes, c'est que le contentement est un grand gain. Or, si je fais des dettes parce que je veux emprunter de l'argent, parce que je ne suis pas satisfait de ma situation ou de ce que j'ai, eh bien, j'ai peut-être un problème avec le contentement. La piété avec le contentement est un grand gain. Et je ne parle pas en raison de privation, dit l'apôtre, car j'ai appris à être content dans les situations où je me trouve. Ceci étant, le métier de banquier est aussi biblique. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent à la banque? Et une fois revenu, je l'aurais retiré avec l'intérêt. Il y a même la notion d'intérêt, ce qui veut dire que quelqu'un d'autre, un banquier, va faire profiter, prospérer mon argent en le prêtant à quelqu'un qui lui va l'investir et va faire créer de la richesse avec ce, avec toute l'application bien sûr spirituelle qui va avec. Hein, si je ne peux pas moi-même entreprendre plein de choses, eh bien je peux peut-être confier ma prière ou confier mes biens à quelqu'un qui lui va faire fructifier les choses pour le bien de l'œuvre du Seigneur. Mais le métier de banquier est aussi tout à fait prosaïque, tout à fait biblique, ce qui fait qu'emprunter pour investir ou emprunter d'une façon réfléchie, sans le risque de convoitise, le manque de contentement, ou bien sans ce risque de faillite, eh bien n'est pas en contradiction, me semble-t-il, avec notre texte. Alors n'hésitons pas non plus à aider quelqu'un qui est dans le besoin. Si on est dans l'autre cas, c'est quelqu'un d'autre qui veut nous emprunter. Et pour lui éviter à lui de se retrouver en risque de ne pas pouvoir rembourser, eh bien, on peut appliquer l'évangile. Prêter sans rien espérer en retour, Luc 6, donne à qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi, discours sur la montagne, Matthieu 5. Le méchant emprunte et ne rend pas, voilà le problème, Donc, non, faisons attention de ne pas tomber dans ce risque-là, mais le juste use de grâce et donne. Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Tu aimeras ton prochain, l'amour, l'amour. Donc, notre sujet, c'est l'amour, mais j'ai mis en vers cette expression qui est très belle, celui qui aime les autres. Ah, voilà quelqu'un qui aime les autres. Quel beau témoignage, quel rayonnement se dégage de quelqu'un qui aime les gens, de quelqu'un qui aime les autres. Et nous sommes invités à aimer les autres. Et en ce faisant, nous accomplissons la loi. Alors la loi. Ici, adultère, tuer, voler, convoiter, autre. Donc on a quatre commandements qui sont proposés pour faire non pas une liste exhaustive, mais un petit résumé de la loi, non pas des 10 commandements, mais des 5, on va dire, de la deuxième partie de la loi, la deuxième table, celle qui s'occupe de nos relations avec les hommes. Dans cette liste, qu'est-ce qui manque? Il manque le faux témoignage. Dans la liste que le Seigneur Jésus donne dans Luc au jeune homme riche, il manque autre chose. Il manque la convoitise qui est dans notre texte. Donc il y a les autres, il y a adultère, tuer, dérober, faux témoignage. Il y a honorer père et mère qui fait partie de la première loi, la première table. Et puis c'est la convoitise qui n'a pas été mentionnée à ce jeune homme riche, peut-être parce que c'était son problème. Et le Seigneur veut lui épargner la chose frontalement, mais la lui révèle peut-être ensuite, quand il lui propose de tout vendre pour le suivre, pour mettre le doigt peut-être sur ce point. Si on continue les autres lectures des autres évangiles, on s'aperçoit qu'en Matthieu, cette fois-ci aussi avec le jeune homme riche, c'est une autre liste, tuer, adultère, dérober, faux témoignage, honorer père et mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme on l'a ici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis dans Marc, ne fais tort à personne, comme on l'a ici. Ne fais pas mal au prochain. Donc on a un paragraphe qui est très très ancré sur les évangiles, sur l'enseignement du Seigneur et en particulier sur cette rencontre avec le jeune homme riche. Mais aussi avec un autre moment où le Seigneur aborde ce sujet, c'est quand il est en Marc 12, qu'on lui pose la question, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, mais le premier de tous les commandements, c'est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et le second lui est semblable. Donc, le Seigneur met maintenant au même niveau le second en disant qu'il est semblable au premier. Donc, ce premier qui est d'aimer Dieu englobe tout, et voilà que le second est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qui fait que Paul, dans notre paragraphe, s'appuie sur l'enseignement du Seigneur Jésus pour déclarer que les commandements sont résumés en cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et pour nous dire que l'amour est le tout de la loi. Qu'on a une adéquation et un alignement ici entre l'enseignement de Paul et les évangiles, et c'est toujours très très intéressant, puisque on se souvient que les évangiles ont été écrits plus tard, mais que de lire des lettres de Paul qui font des allusions ou qui s'ancre dans les évangiles, ça mérite d'être toujours souligné, parce que ça n'est pas si fréquent que ça, et quand ça arrive, cela vaut le coup de le souligner. L'amour, donc, est le tout de la loi. L'amour pour Dieu résume la première partie de la loi, la première table, et l'amour du prochain résume la fin de la loi, la deuxième table. Quant à la loi, elle reste bonne et nous donne des directions éthiques. Donc le fait de dire que l'amour est le tout de la loi ne signifie pas qu'on va maintenant complètement l'effacer de la Bible. en disant qu'elle ne sert plus à rien, ce serait une erreur, elle reste bonne et elle donne des directions éthiques. Tout ce que l'on vient de voir, tuer, voler, adultère, convoiter, etc., eh bien, on voit bien que c'est une direction qui reste très utile encore aujourd'hui dans nos sociétés et dans nos vies. Et la loi a été accomplie par Jésus dans l'amour. Voilà pour ce premier paragraphe sur l'amour. Le deuxième paragraphe va nous parler de lumière. Romains 13, 11 à 14. De plus, nous connaissons le temps actuel. C'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est très avancée et le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans fornication ni débauche, sans esprit de querelle ni de jalousie, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire ses convoitises. Alors, pourquoi je dis que c'est la lumière? Parce que le vocabulaire nous le donne. Réveiller, sommeil, nuit, jour, ténèbres, lumière, jour, tout ça c'est du vocabulaire. Lumière, ténèbres, nuit, jour, sommeil, réveil, c'est pour ça que on a ici un paragraphe que l'on peut, auquel on peut donner un titre, la lumière. Donc à partir du vocabulaire que l'on trouve dans le texte. Et il y a une urgence. Il nous est parlé de temps, il nous est parlé d'heure, maintenant, plus près, avancé, approché. Il y a un côté urgent, il y a un côté appel au réveil, il y a un aspect de vigilance, de mettre des bonnes priorités. Et on est plus près que lorsque nous avons cru. Ça a l'air un petit peu de s'adresser à des gens qui ont cru déjà depuis un certain temps. Ce qui peut vouloir dire peut-être que les croyants expérimentés risquent éventuellement plus de s'endormir que les jeunes croyants. Lorsque nous avons cru, un croyant expérimenté, eh bien, il a peut-être plus le risque de s'endormir. C'est pour ça qu'il y a cet appel ici au réveil, à l'urgence, à la vigilance. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Mon chef me disait toujours, je n'ai jamais été aussi près de ma mutation ou de mon changement de poste. Ce qui est vrai. C'est une lapalissade. On est toujours plus près quand le temps avance de la prochaine étape. C'est logique. Mais ici, ça a un sentiment, on va dire eschatologique, c'est-à-dire les sujets qui traitent du retour du Christ. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut au sens, non pas que je ne suis pas sauvé et que j'espère peut-être l'être, mais c'est le salut complet, c'est-à-dire celui qui inclut pas seulement le salut de mon âme, mais aussi le salut de mon corps et le fait d'être soit transformé dans la vie, soit ressuscité si je suis mort entre-temps. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Cela veut dire le Seigneur revient, les temps de la fin, le jugement, la fin du monde, etc. Tout ce qui est ce qu'on appelle l'eschatologie. Et le sujet de l'étoile du matin, de l'aurore, du retour du Christ s'approche. C'était vrai à l'époque de l'apôtre, et bien sûr c'est encore plus vrai aujourd'hui puisque nous sommes 2000 ans plus tard, et cette attente doit toujours accompagner l'Église. L'apôtre, lui, en écrivant ces choses, il sentait que des années avaient déjà passé entre l'enlèvement du Seigneur au ciel à l'ascension et la promesse des anges qui disait qu'il allait revenir de la même manière, qu'il l'avait vu s'en allant au ciel. Déjà quelques dizaines d'années avaient passé, et c'est pour ça qu'il nous écrit: le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc 2000 ans plus tard, aucune raison de penser qu'il y a du retardement, mais de bonnes raisons d'être toujours dans l'attente du retour du Seigneur et de la fin qu'il nous a annoncée. Le jour s'est approché. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Matthieu 3. Hein, le jour s'est approché, le lever du soleil de justice. Ou bien il sera comme la lumière du matin quand le soleil se lève, un matin sans nuage. 2 Samuel 23. Alors que faire? Eh bien, un certain nombre d'actions. Des décisions, de la détermination. Nous réveiller, rejeter, revêtir, nous conduire, revêtir, ne pas prendre soin. Donc, un ensemble d'actions, de verbes d'action, de décisions, de détermination, de fermeté dans nos décisions. On peut se souvenir de ce texte de 2 Rois 5, quand Géasi s'était intéressé à de l'argent et trouvait que son maître Élisée avait été bien trop généreux envers le chef de l'armée syrienne, Naaman. Et Élisée lui dit: mais est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, des oliviers, des vignes, du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes? Est-ce le temps? La nuit est très avancée, ce n'est pas le temps. Il y a contraste entre œuvre des ténèbres et armes de la lumière. Donc rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière. Donc un contraste très fort là, au milieu de notre paragraphe. Et si on pense à revêtir les armes de la lumière, on pense à l'armure complète de Dieu, d'Éphésiens 6, avec les sept éléments de l'armure: la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de la préparation de l'évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit et la prière. Donc les sept armes de cette armure complète de Dieu, revêtons les armes de la lumière. Mais revêtons aussi le Seigneur Jésus-Christ. Quelle belle expression. Alors peut-être avant de venir sur revêtir le Seigneur, quelque chose sur les choses que l'on veut éviter. Donc, conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie, ni ivrognerie, sans fornication, ni débauche, sans esprit de querelle, ni de jalousie. Si on les met ensemble, donc ces mots, et qu'on regarde un petit peu où est-ce qu'ils apparaissent. Orgie, komos, on le voit aussi dans Galates 5, 1 Pierre 4. Ivrognerie, métier, c'est dans Luc 21, mais aussi dans Galates 5, dans le même texte. Fornication, coïté, c'est le lit en Luc 11, mais c'est aussi le lit de Hébreux 13. Débauche, asceligeia, ou de nouveau le texte de Galates 5, et puis 1 Pierre. Donc voilà, on a ici ces quatre-là, et puis on a à droite esprit de querelle, péris, de nouveau aussi Galates 5, et esprit de jalousie, de nouveau Galates 5. Donc on voit que Galates 5, ce petit paragraphe autour du verset 20, reprend un peu presque tous les mots de notre liste. Donc un premier message, c'est que querelle et jalousie, eh bien, ne sont pas moins graves ou moins importants que les choses de gauche qui nous paraissent peut-être plus graves à première vue. Première façon de voir la chose. Et puis une autre façon, c'est de les grouper par deux et de voir que dans orgie, ivrognerie, c'est les excès qui nous rendent laids. Fornication, débauche, c'est plutôt ce qui est faute sexuelle, qui sont d'ailleurs parfois encouragés par ces fameux excès. On sait que dans la Bible, l'alcool est au moins 3 fois, on a toujours besoin de 3 points pour démontrer quelque chose, au moins 3 fois un facteur qui va conduire à des relations sexuelles non désirées. Donc, des excès qui avilissent, des fautes sexuelles parfois encouragées par les excès, et ici, des atteintes aux relations. Donc, six exemples ici, bien sûr, non exhaustifs, mais qui sont proposés par l'apôtre, que l'on rejette pour revêtir le Christ. Et donc, revêtez le Seigneur Jésus-Christ, on peut penser d'abord à cette image du tabernacle, ou bien ici c'est le temple, en 2 Chroniques 3 c'est le temple. Il fit la maison du lieu très saint. Donc c'est la maison qui entoure l'arche, qui entoure le lieu très saint, sa longueur correspondant à sa largeur, 20 coudées, et il la revêtit d'or fin. Donc les planches de la maison, les planches du tabernacle, ou ici les planches du temple, sont revêtues d'or. Et si on fait la comparaison au fait que nous sommes, nous, le temple de l'Esprit Saint, nous sommes constitués une maison par des pierres, des pierres saintes, ou bien ici des planches assemblées pour former la maison. Si on voit dans les croyants, liés tous ensemble par les différentes barres du tabernacle, par exemple, et que l'on voit dans ces croyants, dans ces planches qui forment la maison des croyants, eh bien le fait d'être revêtu d'or fin, c'est une image du fait qu'on soit revêtu par le Seigneur Jésus, puisque lui-même est symbolisé par les objets du tabernacle, comme l'arche, par exemple, ce bois de sittim, qui est son humanité, le bois entièrement revêtu d'or, sa divinité. Et alors on lui ressemble, nous aussi, en étant homme, en planche, mais on est revêtu de lui-même, revêtu d'or. Donc ça, c'est l'aspect un peu symbolique. Et puis il y a des textes plus directs, avec par exemple Zacharie 3, ôtez-lui ses vêtements sales, et il lui dit, regarde, je t'ai enlevé ton iniquité, et je te revais d'habits de fête. Donc on a le sacrificateur de Zacharie 3 dans la vision. Et eh bien, il est revêtu d'habits de fête. On lui a fait passer son iniquité. On lui a enlevé ses vêtements sales. Le fils prodigue qui revient en haillons après avoir gardé les pourceaux revient chez son père dans un esprit de repentance et de retour et d'humilité. Eh bien, on apporte dehors la plus belle robe et l'en revêtait, Luc 15. Et dans Galates 3. En effet, vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous avez revêtu Christ. Donc une belle expression, pas du tout superficielle au sens du vêtement superficiel, mais on est revêtu par le Christ et cela va nous transformer en profondeur. Donc là, on est dans le cas où l'habit fait le moine. C'est-à-dire qu'on est revêtu par le Christ et nous devenons moines au sens bien sûr qu'on est à sa ressemblance et on est transformé par le fait de lui ressembler et de le revêtir. Ce qui fait qu'on ne peut pas passer à côté du texte de la tunique qui était sans couture. Elle était tissée tout d'une pièce depuis le haut. Ils dirent donc entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera. Imaginez que cette tunique était sans couture, image du Seigneur dans sa perfection. Il n'y a pas de couture, il n'y a pas d'imperfection. Toute sa vie était une unité parfaite, était belle, précieuse, et n'avait pas besoin effectivement qu'on raccommode ou qu'on accommode, qu'on mette ensemble deux pièces. Tout était parfait. Et cette belle tunique, elle est effectivement repérée comme étant belle par les soldats. Et il propose de ne pas la déchirer, mais de la tirer au sort. Ça veut dire que quelqu'un va la porter à qui elle sera. Peut-être un des quatre soldats, peut-être quelqu'un à qui il l'aura vendue. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui s'est promené ensuite avec la tunique du Seigneur. On peut espérer que cette personne, un jour, est devenue chrétienne Et en tout cas, cela nous parle. Est-ce que nous portons sa tunique? Est-ce que nous lui ressemblons? Une tunique sans couture, une vie belle, une vie sans imperfection, parce que justement, nous le ressemblons. Alors, le passage se termine par revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire ses convoitises. D'abord, intéressant, de nouveau, on sait que le sujet de la chair est très très important dans la bouche de l'apôtre Paul et en particulier dans l'épître aux Romains. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur Jésus aussi utilise ce mot dans ce sens. Il l'utilise, je crois, deux fois, il y a une troisième qu'on peut éventuellement aussi déclarer comme telle. Il y a deux fois clairement où la chair veut dire la nature humaine pécheresse. Et il le dit en Jean 6, c'est l'esprit qui vivifie, la chair n'est d'aucun profit. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. Et puis il le réutilise ce vocabulaire en jardin de Gethsémané, quand il dit à ses disciples, veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Et là, n'entrez pas en tentation, la chair est faible. On est vraiment exactement dans notre passage. Ne prenez pas soin de la chair parce qu'elle va vous faire tomber. Parce que si vous faites tout pour bien l'entretenir, forcément, il y aura des convoitises qui vont vous embarquer. Donc, ne pas prendre soin de la chair, ça veut dire ne pas cultiver quelque chose que l'on sait qui va finalement nous mener du mauvais côté. Prendre soin, c'est ça, c'est je cultive, j'entretiens dans les pensées ou dans le programme ou dans mes activités ou dans les lieux où je vais, tout ce qui pourrait finalement aller un peu dans le sens qui risque de me faire tomber. Alors que si je revais le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, je ne suis pas dans cette démarche-là de prendre soin de la chair. Cette dernière mention de la chair dans l'Épître aux Romains, et donc ici, dans notre verset, il y a déjà eu 20, il y a 24 mentions de la chair dans les Romains, il y en a 16 fois sous cette acception nature humaine pécheresse, les autres fois c'est le corps, hein, le corps humain. Mais la chair dans ce sens-là, c'est vraiment un sujet central de l'Épître aux Romains. Et ça se termine par cela. Ça se termine donc un peu comme un dernier conseil autour de ce sujet. Et on sait que ça a pas mal occupé le chapitre 6, chapitre 7, etc. Eh bien, ça se termine avec revêtez le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la clé, c'est ça la solution. Et ne prenez pas soin de la chair, n'entretenez pas, ne faites pas tout pour déjà préparer la prochaine fois où vous allez tomber. Vous avez été appelé à la liberté, seulement n'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair, hein, c'est la même pensée. Vous avez été appelé à la liberté, mais ne l'utilisez, n'utilisez pas cette liberté comme une occasion pour la chair. Et puis celui qui sème pour sa propre chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Voilà, j'avais prévu la pause à peu près ici. Je crois qu'on est pile dans les temps puisqu'on l'avait prévu à 20h50. Mais avant la pause, il y a éventuellement des questions.
Merci Frédéric pour cette première partie. Tout à l'heure, quand on a fait les réglages, on a dit que ça arrivait rarement qu'il n'y ait pas de questions. Et il n'y a pas de questions.
Ah, c'est très grave.
Et puis, vu qu'il n'y en a pas maintenant, je vous propose qu'on fasse la pause maintenant. Donc, 5 minutes de pause. À tout à l'heure.
Merci.